Biston klack, biston klack, biston klack. Nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises. Qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Biston klack, biston klack, biston klack. D'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Bonsoir, notre émission de ce jour est consacrée au maquisard Paul Debat. Paul Debat est né le 24 mai 1922 à Lyon. Trop jeune pour être mobilisé au début de la guerre, il va être intégré dans les chantiers de jeunesse, et quand il en sortira, et qu'il sera convoqué pour le STO, comme beaucoup de jeunes Français patriotes, il s'y dérobera. Et il essaiera d'entrer dans un maquis de la Résistance. Ce qui n'était pas aussi facile qu'on pourrait se l'imaginer aujourd'hui. Finalement, il intégrera un petit maquis marginal dans la vallée d'Azergues, le maquis de Saint-Cyr-le-Château, passablement ignoré de l'histoire et oublié, sur lequel il nous apportera son témoignage. Maquis dans lequel il ne combattra pas l'occupant jusqu'au moment de la fin de la guerre, où ce maquis utilisera ses armes contre les Allemands en retraite et pour la libération de Lyon. Cette expérience est aussi emblématique de ce qu'il en fut de cette période pour une partie de la jeunesse française patriote qui dut se soustraire à l'occupant réquisitionneur et chercha à entrer dans la Résistance sans pour autant se retrouver en situation de combat pendant de longs mois, jusqu'à la fin de la guerre où toutes les forces se sont retrouvées mobilisées pour passer à l'action. En ce qu'il reflète lui aussi un aspect de la réalité de l'époque, ce témoignage vient s'ajouter au kaléidoscope que représente l'ensemble des témoignages d'acteurs de cette période. Paul Debat vit toujours à Lyon et il a bien voulu nous confier son témoignage le 27 avril 2010. Nous l'en remercions et nous vous proposons de l'écouter.
Allô, Henri ? Ici André !
Ouais !
J'ai décidé de moderniser la France. Faut que je te voie. Dans 3 jours. D'accord, allez droit.
Monsieur André Citroën et avec Monsieur Ford Henri. C'est le travail à la chaîne qui l'a ramené dans notre chère patrie. La France agricole devient industrielle grâce à des patrons comme lui. Les ouvriers se précipitent pied de javel pour goûter les joies de ce progrès inouï. Plus de 100 à l'heure, des culbuteurs, carburateurs inversés. La monocoque ouvre une époque, Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant, et avec leur moteur flottant. Révolution dans la technique aérodynamique. Regarde maman, les beaux cardans, homo cinétiques. Voici les tractions avant, et au salon c'est l'affolement. Albert Lebrun, plein d'émotion, fait marcher le klaxon. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est la traction universelle.
Allô, la tour Eiffel, passez-moi le patron. Allô Gustave, ici André.
Ouais,
j'ai décidé de démocratiser la France. Faut que je te voie. À 3 heures.
D'accord, je monterai chez toi.
Monsieur André Citroën, illumine la tour Eiffel. C-I-T-R-O-E-N, tout Paris la nuit, on prend plein les prunelles. La publicité, c'est le meilleur des hameçons pour pêcher la clientèle. Chouette, il y a un nouveau produit de consommation. Tous les Français se précipitent qu'est Javel. Les ouvriers, les PDG, les gangsters comme les flics, tous ont couru poser leur cul dans cette voiture démocratique. Voici les tractions avant et avant qui s'élancent à travers champs. National 7, Monte Carlo, pipi à la Roche-Pau. Malgré les trous et les cailloux, la route est à nous. Voici les tractions avant et avec leur moteur flottant. Après le trèfle, la Rosalie, la 11, c'est le dernier cri. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est la traction universelle.
Monsieur Debat, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour Radio Canu pour parler de votre histoire pendant la guerre et de vos activités de résistant. On va peut-être commencer par votre enfance, votre naissance. Vous êtes né où en fait? Vous êtes lyonnais ou...
Lyon 2e.
Lyon 2e, ah, oui.
Hôtel-Dieu.
Et votre enfance passée à Lyon aussi
Non, on était plutôt sur la Calade, Caladour. Aux environs de Villefranche.
D'accord, près de Villefranche.
On avait une maison en campagne, mon père était là, ma mère était institutrice à sa bagnole, et puis mon père avait donc cette pauvre petite ferme, quoi, c'est pour... Mm-hmm. On n'était pas retraité de l'armée non plus, mais enfin, il y a tellement été longtemps, il était à police, il était un peu partout. Mmh. Enfin, il menait cette petite ferme là tranquille. Alors, il nous emmenait à l'école en voiture jusqu'à la bagnole le lundi matin, on allait me chercher le mercredi soir, jeudi, c'était jeudi.
Jour de liberté.
Liberté des enfants à cette époque. Mmh. Donc, il nous ramenait le vendredi, il nous ramenait le samedi, puis on quittait, quoi.
Et vous avez quitté l'école à quel âge?
À 14 ans. Un peu plus, j'ai passé le certificat au Baudouin, et puis ensuite, bien, c'est pas comme aujourd'hui, là, 14 ans de jour. C'est-à-dire, là, à Lyon, rue des Remparts des Nez, je voulais être dans la mécanique automobile, enfin, bon. J'étais venu voir une place, mon père avait une place sur le journal, le Brevin à l'époque, quoi, sur Lyon. On va au Victor Gagnon, la voir. C'est une dame qui nous a reçu, comment on appelle ça, une maison de. Non, pas d'embauche.
Garage, c'était un garage.
Non, c'était un organisme qui faisait des acquis, qui menait des annonces et qui dirigeait les gens. Ils étaient avec Victor Gagnon à l'époque, en 36.
Oui, vous êtes né quelle année, j'ai oublié.
À 29 mai 22. Et alors donc, la place mécano était prise. Et puis je vois elle me dit, écoutez, j'en ai une, électricien auto. Oh là, moi, t'es un gamin, je me dis, oh là là, électricien auto. Alors mon père, qui lui, c'est un baronneur, il ne pouvait pas trop discuter avec lui. Il dit, bon, c'est toujours pareil, c'est dans les voitures, allez, on va y aller, on va. Puis on est tombé rue des Remparts des Nez chez un vieux garçon qui était ex-metteur au point de chez Paris-Rhône, la maison Paris-Rhône, l'entrepreneur, l'usine Paris-Rhône.
Et il cherchait un apprenti.
Oui, il était inscrit pour avoir un apprenti. Alors donc, j'ai fait chez lui jusqu'à 39, enfin c'est quand, cours de route, il a été obligé de lâcher son garage parce qu'il y a eu un accident, bon, enfin c'est autre chose. Puis c'est un autre qui était mécanicien de garage. Courverdun, là-bas, qui a acheté son garage, et puis ils sont associés à moitié. Enfin bon, c'est là que j'ai appris la mécanique, alors, compléter en mécanique. Jusqu'en 1939, la déclaration de guerre.
Et
voilà.
Et là,
où mon patron était mobilisé, et donc moi je suis rentré à la campagne, et puis voilà quoi.
Tu es encore trop jeune pour être appelé sous les drapeaux, au début.
Bah, j'avais 18 ans, quoi. Alors donc, bon. J'ai donc 18 ans, je vais donc. J'étais travaillé un peu partout, et puis j'étais chez. En 40, donc j'avais 18 ans pile. J'étais chez Godard à Villefranche, entre garage Peugeot. Et le 2 juin, autour de juin, au début juin 40, là, c'était la débâcle. Les Allemands sont rentrés, raus, tout le monde dehors. Ils ont mis le garage, c'est comme occupé, les gens 40. Et elle est dehors. Alors, je ne m'occupe pas bien d'eux, je tirais. Je suis parti à la campagne. Et lui, en attendant, on allait au chantier de jeunesse.
Et à ce moment-là, la débâcle, vous n'êtes pas parti dans le sud. Beaucoup ont eu peur, ont cru qu'on allait les réquisitionner.
Compagner, envoyer ça, c'était terrible à voir. Les anciens combattants de 14, ils s'arrachaient les cheveux, ils voyaient arriver les soldats tout débrouillés, pas d'armes, qui trimbalaient là, comme ça. Ils disent, bon Dieu, mais qu'est-ce que vous foutez, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ben, dit, vous voulez, on n'a plus d'armes, on n'a plus de commandement, on n'a plus rien. Quel débat.
C'était à Villefranche.
Ouais, à Villefranche, sur la place du Trône Noir, on voyait arriver les gens, on n'est pas dans la 6, quoi, sur la 6. Et les voitures, les femmes conduisaient pas beaucoup à cette époque-là. Alors donc, ce qui se passait, c'était des soldats comme ça, qui leur prenaient le volant, puis qui les emballaient un peu plus loin, puis un peu d'étape en étape, comme ça, les matelas sur le toit, les gamins dans la voiture. Ah, c'était pas bon, ma foi. Enfin bon, alors là, moi, avec mon père, moi j'ai justement pris une petite. C'était une monade 4 noms, on sait rien. J'ai accompagné cette dame jusqu'à l'arbre, elle, pour l'avancer, quoi. Mon père, m'avait retourné sur Frontenac. Et alors là, je l'ai laissé là-bas. Il dit que vous l'étiez, puis on a trouvé un gars, lui, il dit, vous l'avez porté plus loin. Malheureux, les Allemands, ils étaient dans le midi avant. Oui, c'était trop chouette à voir. Alors, comme j'ai jamais voulu être avec eux, alors j'ai bricolé dans la campagne pendant un an et demi. J'avais pas des tracteurs modifiés. J'avais un copain dans le Beaujolais, il avait 2 ans de moins que moi, peut-être la 44. On était à l'école ensemble d'ailleurs. Le fils de l'épicier du village. Alors, bon, on allait dans son. S'il avait 2-3 maisons dans le Beaujolais. On modifiait un tracteur, enfin, on allait chercher des feux, on faisait des coupes de bois, on faisait des labourages en roulant avec l'alcool pour les tracteurs. Enfin bon, jusqu'en 42, quoi. Et avant 42, comme j'avais pas beaucoup de sous, ben, je suis venu sur Lyon, là, chez des oncles qui habitaient la montée Bonafou. Et puis, pour me faire quelques sous avant d'aller au chantier de jeunesse, quoi, on met 3 sous en poche. On a travaillé dans un garage à Travemichel jusqu'à garage de l'Europe là, pendant 6 mois. Quoi. Et puis de là, cette.
Parce que les chantiers de jeunesse, vous saviez qu'à un âge donné, vous alliez devoir y aller. Quoi.
J'ai reçu ma feuille de route. Bien sûr, c'est normal. J'avais 20 ans, c'était le moment. Quoi. Alors donc, le 7 juin, 7 ou 9 juin.
7 juillet
42, hein, c'est, hein, c'est, oui, voilà, exactement, je me trouvais avec J'étais je suis arrivé avec Sébin, mais c'était le Châtelard. Je faisais partie du 8e groupement du Châtelard.
Et comment ça s'est passé là-bas? Vous habitiez dans des tentes ou...
Voilà, c'était tous des gens de baraque Adrian. Voilà, dans ma baraque.
Ouais.
Nous voilà avec le fils du Perron, qui était par lui, justement, on est Antoine Maquis, son père.
Vous le connaissiez déjà à ce moment-là?
On était ensemble. Même chauffeur, ensemble, au ravitaillement, au chantier de jeunesse.
Vous sembliez en bonne santé, bien nourri, propre sur vous.
Bien nourri, enfin, c'était le chantier. Hein, c'était il pas tellement
Vous étiez jeune quand c'était...
Bien sûr. Enfin bon, c'était... Et encore en plus, après, on a fini ensemble... On était donc chauffeur au ravitaillement, on ravitaillait les groupes, qui sont les coupes de bois, tout ce qui se faisait au chantier de jeunesse. On cherchait le ravitaillement à l'échelle, et de là on partait. Mon départ, là, justement, démobilisation. Eh bien, et de là après, je prends la gueule du pain. La gueule du pain, c'est que le pain était mauvais, on appelait ça la gueule du pain. C'était des grosses rougeurs qu'on prenait. Alors j'avais une ligne rouge comme ça, prête à empoisonner le sang, quoi. Alors, direction infirmerie de le Châtelard. Alors, au Châtelard, infirmerie. Alors, j'ai passé une quinzaine de jours à l'infirmerie, à me frotter avec une brosse à chien d'or. Le gars, il m'a dit, allez, tu frottes jusqu'au sang, là, il faut que ça passe. Il me passait de la scabiole. Enfin, après, il m'avait mis mon treillis dans du formol. Quand je suis reparti, il dit, bah, tu peux te rhabiller, ça y est, t'es bon, tu peux partir. Putain, j'ai enfui de ses habits, moi, j'ai pleuré toute la matinée. Ce formol qui remontait. Enfin, bon, des trucs comme ça. Alors, voilà, reparti. Et là, est arrivé les Bleus. C'était au moment un peu pente, parce qu'au bout de 4 mois, il y avait la relève des Bleus. Les Bleus qui arrivaient, bien sûr, qui étaient pas de notre même mois, de la même année, mais pas du même mois. Comme ça, roulait sur 4 mois. Alors, ouais, les Bleus arrivent, et donc il y en a un qui a pris mon camion, mon camionnette. Alors, moi, j'avais plus de machin. Alors, parce que j'avais jamais dit que j'étais mécanicien.
Ah oui.
Pour rester au garage, justement. Alors, je ne sais pas comment ils l'ont su, on ne sait rien. Alors, ils m'appellent et puis ils me disent, non, ben, tu vois, on a trouvé quelque chose, là, tu vas pour finir là, tu vas monter à la Féclose, faire marcher le groupe électrogène de la section éclaireuse-cure. Oui, c'est ça. Alors, bon, ben, voilà parti. Et mon ami Albert, pareil, ils m'ont piqué aussi, la relève est arrivée. Ils l'ont pris son camion. Et lui, comme il faisait du ski, lui avec moi, alors donc, ça l'a intéressé de faire du ski à la Féclose. Alors, nous, voilà partis là-haut, tous les deux. Mais lui, il n'est pas resté longtemps, ça ne l'a pas trop plu. Il s'est trouvé une combine et il est reparti. Et puis moi, je suis resté là-bas tout seul, à faire marcher mon groupe électrogène, un grand moteur Bernard. Comme il n'y avait plus de batterie pour réceptionner l'électricité, il fallait faire ça, il fallait tourner au gazogène et à l'oreille, hein, autour de moteur. Alors,
ça vous occupait bien vos journées, ça.
Tu m'occupais, oui, de faire tourner ce moteur pour donner l'éclairage, quoi. Au moins l'éclairage, on avait pas, on mettait pas nous chauffer en électricité. Tout ce qu'il fallait faire pour alimenter, c'est un hôtel de bon logis, oui, alors là, t'es là comme ça. On arrive là-haut, là, première chose, aller à l'allemande, le chef de groupe, un débertisme le matin, 6h du matin, dans la neige, rouler dans la neige, torse nu. Ouh là là, j'ai dit, oh, il m'a eu une fois, mais pas eu deux. Il s'est bizarrement, le groupe électrogène, il baissait à ce moment-là. Allez. Alors bon, enfin, c'est les combines, on peut se faire à mesure, je me démerdais. Enfin, je suis resté jusqu'au bout, jusqu'à la démobilisation.
Et donc
après, démobilisation, comme je vous dis. Alors, je me suis fait porter les cultivateurs un mois, parce que donc cette ferme qu'on avait, quoi. Alors, les cultivateurs avaient droit à un mois, c'était le moment de. Pour des smiles, non, parce que c'était un peu pour le moment, mais enfin bon, pour les cultivateurs, ça d'attribuer. Alors, j'en ai profité pour ce mois-là de pouvoir circuler un peu, quoi. Et de là, j'ai pas passé près parce que je ne serais pas là aujourd'hui. Il y avait un communiste de Belmont, là, au-dessus de Charnay, là, en dessous de Charnay, qui connaissait mon père, et puis mon père avait été le trouvé, je ne sais pas pourquoi. Et ils ont discuté, et lui, il avait un fusilier allemand, un Moser, de la guerre de 14, avec 120 cartouches. Ah ben, il me dit, non, ben ça va, je t'ai trouvé quelque chose. Donc, tu rentres au maquis et donne déjà une arme.
Les chantiers, vous les avez quittés régulièrement. Je veux dire, vous n'êtes pas sauvé, quoi.
Ah, pas du tout. Hein? Ah, si j'avais su que ça tourne en maquis, j'y serais resté. Les copains qui ont été tués, après, j'ai su bien après, quoi, après la guerre, qui ont été en allant autour de l'ex-Sébain, quoi. Et dans cette putain de laps de temps, de réfractaire, c'est ça que j'ai jamais avalé. J'ai craint le plus. Il fallait se méfier de tout le monde,
C'est-à-dire, craigner d'être dénoncé.
Malheur, la délation et tout, je ne sais pas. Et de mes frères, de mes sœurs. Alors, on avait, dans cette maison en question, un bois d'Alix. Alors, avant la guerre, on a fait une réserve, on allait avec un râteau gratter la paille des bois. Mon père appelait ça paille des bois, parce qu'il n'avait pas de blé, une machine comme ça, pour les bêtes. Il avait un mulet, une vache, et puis les moutons. Alors, dans cette écurie, il y avait le foin était dessus. Alors, j'en ai profité pour faire un grand tunnel dans cette paille qui était assez compacte. Pour nous planquer tous les trois, les copains que j'avais trouvés. Et dans le fond, j'avais fait un petit matelas de 120, donc en plus, toute la journée, comme des proscrits.
Vous restiez à l'intérieur, dedans.
Mais Complètement, ouais. Au premier.
Et vous étiez réfractaire à quoi à ce moment-là? Au STO?
Ah ben bien sûr. Mmh. Ah ben j'ai été touché mon bon du STO à Villefranche, tout. Je suis tombé sur une espèce de. Je ne sais pas si j'étais officier ou chose, j'en sais rien. À la sous-préfecture à Villefranche, là. J'ai touché mon bon de galoche et de. Il donnait 1000 francs, je crois, à l'époque. Il y avait une paire de bleus et une paire de galoches. Et puis il en a poussé. Vous êtes beau garçon. Après, j'ai dit, non, toi, tu en as, tu dois en mettre. Ah bon, ça va, alors, beau garçon, tu vas l'attendre. Hein. Alors, parce qu'effectivement, alors, ce que j'avais fait, j'avais un oncle de Lyon, là, qui venait faire un petit bout de jardin pour faire des quelques légumes, et qui venait avec son sac sur le dos, il prenait le car, pour aller vers la maison de mes parents. Et puis, je lui ai dit, bah, tu sais pas, je vais partir, je dois partir. Voilà, j'ai mon bon, je devais aller à Leipzig. J'avais ma feuille de route pour Leipzig. Alors, je lui ai dit, bon, bah, je devais prendre le train, quelques jours à Perrache. Alors, je lui ai fait acheter une carte à Lyon, une carte postale. Puis, j'ai écrit derrière que je partais, que bon, c'est tout. Et je lui ai dit, tu la mettras à la poste quand tu retournes à Lyon. Et moi, à ce moment-là, c'est là que j'ai tiré le parti. J'ai commencé à me planquer chez moi. Puis après, j'ai réuni les deux copains, là, avec on était trois. Pendant les 5, ça a duré au moins 5 mois.
5 mois, vous êtes resté caché.
5 mois, alors 15 jours chez nous, 15 jours chez eux à Ville-sur-Jarnoux. Il y en a un qui habitait à Ville-sur-Jarnoux, l'autre Ville-Jarnoux. Pareil, chez ses parents, il fallait caché de tout le monde, on circulait que la nuit pour prendre l'air un peu, avec un pétard en poche chacun, puis alors c'est ça que j'ai quand même dit, j'entendais ma mère qui une voisine qui venait, elle discutait en bas, alors là, chut, il n'y a rien à dire, on avait le droit de se couler.
Parce que dans le voisinage, des gens étaient susceptibles de vous dénoncer. Il y a eu des cas, vous avez connu des gens qui se sont fait prendre comme ça.
C'était connu. Ah ben, ça se savait accidentellement par la suite. Oui. Mais c'est pas celui qui dénonçait qui allait dire j'ai dénoncé.
Elle se vantait.
L'autre, c'était pas jalousie, l'autre, parce que c'était affreux, ça. Ça, c'était plus dur. Parce que ça, vraiment, hein, c'est dégueulasse. Une fois, je fais arrêter des gendarmes français, une fois, plus tard, là. Oh putain, c'est pas vrai. Et on était que deux, je suis au ravitaillement. C'était pas là, c'était du côté. Non, là, on peut plus. Il y a des choses, alors c'est le trou, je ne me rappelle plus du tout.
Ouais, bah, oh, c'est normal, là, c'est vieux. Hein,
enfin bon, je me rappelle de cette Pandore, là. Moi j'étais une fausse carte, je m'appelais Domer, je ne m'appelais pas Debord. Ben, mon père m'a fait avoir une carte, ben, c'est pour comment on lui vient venir la signer, parce qu'on cachait des juifs chez nous, enfin, ils connaissaient une filière. Alors donc, il m'a donné cette carte, que je ne peux pas retrouver, je la cherche depuis un sacré temps. Eh bien, une carte d'identité normale, quoi. Mm-hmm. C'était un gars qui faisait ça, quoi. Je sais plus
dans une nom. Mairie peut-être, non? Souvent c'était dans les mairies.
On a eu des fausses cartes dans les journaux, dans le tout. Enfin, j'ai déjà habité du côté de Toulouse, j'avais mis les pieds. Mon père s'appelait comme ça, ma mère, machin. Mm-hmm. Alors ce putain de gendarme, il nous prend nos cartes d'identité, de peur que des fois on lise si on était près de lui. Et allez, oui, c'est bon. Bon, alors, votre père, votre mère, ils sont nés où? Vous êtes nés quand? Salaud, on a jamais un pétard à la poche, j'ai dit attention, si jamais il se loupe, il y aura des morts.
Tant pis pour lui.
Ils étaient deux, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Et vous pensiez quoi dans votre fond, de sous la paille, là, vous pensiez?
Eh bien, dans votre métier.
C'était ça, votre idée.
C'est-à-dire qu'après le chantier, d'être le réfractaire, pas comme ça, hein. Au maquis. Alors, ça a été très dur pour rentrer au maquis. Alors, c'est après par M. Duperron, là, qui. Alors, lui est un jeune, il a fait beaucoup pour le maquis. Duperron, c'est un ancien gendarme, enfin, marchand de fromage après, quoi, bien sûr. Mais enfin, attention, le père Duperron, il en a fait des choses. Il avait une voiture, puis il avait un peu d'essence pour ses marchés, puisqu'il faisait des marchés. Et on a rendu des services au maquis, hein. Puis les maquisards. Quand ils ont amené Chavanel, blessé, c'était chez lui, c'était à 30 mètres de la route. Mm-hmm. Pas trop également qui marche, là, dis donc. Ils allaient manger bon. Hein. En plein à côté, la maison, je sais pas, je connaissais les trois, j'en sais rien. Elle est longue de la route en bord. Et là, ils étaient là, il y avait le 23 du maquis, il y avait l'attraction du maquis que le chameau conduisait, et le doré qui conduisait le 23. C'était tout là dans la cour. Oh putain, ça allait faire un sacré massacre. Hein. Jamais... Ils ont eu du pot que jamais les Allemands sont passés là.
Donc c'est par le fils du Perron que vous entrez en relation avec le maquis. Quoi.
Albert, lui, il n'avait pas de combine. Alors, premièrement, j'ai mis 3 heures pour persuader le père du Perron parce que toujours, il était méfiant. Que moi j'étais parti.
Vous étiez un ami de son fils quand même.
Ben exactement, on était ensemble.
Donc il avait dit ça.
Albert, ben oui, mais il ne me connaissait pas. On était au chantier de jeunesse, il ne me connaissait pas. Alors j'ai dit, enfin, je me suis fait connaître, je vais pour les photos. Je vais paratiner pour arriver. J'ai dit, écoutez, on est prêt à cacher Albert chez nous. Mais il ne connaissait pas chez nous, il ne connaissait pas mes parents, il ne connaissait personne. Alors. À force, il dit bon, ben alors d'accord. Alors lui, quand il a sa feuille de route, il avait passé sa visite, lui, au garage Atlas, rue Bonnel, à l'époque où il y avait un machin allemand, quoi, un bureau allemand, de recrutement, et il devait partir de là. Et le père du Perron est descendu avec son fourgon, il y avait un fourgon fermé, Citroën, là, et il l'attendait dans une rue à côté, et lui, dès qu'il est sorti du bureau, dans la camionnette, et hop, direction les Yabot, chez nous. Et on l'a gardé 21 jours. On l'a planqué 21 jours ici pendant que les gendarmes allaient chez lui, là, voir ce qui se passait. C'était emmerdant pour se diriger. Hein.
Ce que tout à l'heure, vous me parliez de M. du Perron, donc qui a fini par vous accepter, mais vous ne m'avez pas dit comment ça s'était passé, votre entrée au maquis. Vous avez discuté longtemps avec lui, après, qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qu'il fallait, moi, ce qui m'importait, c'était de se rentrer au Bébert avant qu'il soit obligé de partir en Allemagne. Alors donc, absolument, alors, donc le rendez-vous était fait, ça a bien été fait, on a vu arriver la voiture, moi j'étais donc, je devais être dans le mois de qu'on avait le droit pour les cultivateurs. Alors donc j'ai vu arriver la voiture, par le perron, à la ferme, à la maison. Et puis bébé a descendu, puis on l'a gardé 21 jours, c'est bien simple. Parce qu'après, il s'est trouvé à se planquer vers ses beaux-parents à Ouin, à Saint-Laurent-d'Ouin. Alors après, bon, moi je l'ai perdu de
vue. Mais vous êtes entré comment dans le maquis?
Eh bien voilà, petit à petit, mais encore, on a eu un stage encore. Aux Eaux et Forêts, on a travaillé, à Chambostalière. Le cas était, c'était un vieux garçon qui était chef, là, qui était... Paraît-il qu'il n'a jamais rien su. Comme il buvait un petit peu, tout ça, attention. En rentrée, on a une carte des Eaux et Forêts. Perdu, alors ça ne pas trouvé de ça. Je ne sais pas combien de temps on a travaillé, mais j'étais avec d'autres que je ne connaissais pas. Et c'est de là qu'il y avait donc Mnoyi. C'est des souvenirs, ça. Alors c'est dur. Je me vois travailler dans les bois avec eux, là. Travailler là, et c'était le père du Perron, il avait fait rentrer les forêts encore.
Avant le maquis.
Et puis après, on est arrivé comme ça, ce maquis qui nous a trouvé cette maison à Saint-Cyr-le-Château, avec, comme il avait vu que j'étais avec un quartier maître chef, un quartier maître quoi, et puis que tous les deux, et trois, quoi, avec le Stimmy là, on est arrivé dans ce petit groupe. Puis mon père est venu nous rejoindre là-bas à Saint-Cyr, puis après, on a eu ces petits jeux.
Et vous avez fait quoi? Alors là, vous battiez pas
jusqu'à part d'avoir tiré sur le.
Voilà, oui, quand même. La fin, quoi. Mais je veux dire, pendant toute la période, ça a duré quelques mois, quand même. Vous faisiez quoi la journée?
On était là, comme on attendait, comme toujours. Rien de spécial, parce qu'on ne nous demandait pas de faire quelque chose. On était là, comme
donc
ça.
Donc le ravitaillement, la cuisine.
Oui, bien sûr.
Un peu d'entraînement physique, non, même pas.
On travaillait même dans le. Il faut tout. On piochait dans les patates de la voisine. Il ne faut pas les patates. Il faut aller dans son champ. Bon, on a fait donc ces eaux et forêts. Puis là, on est monté là-haut. Et d'après la descente sur Lyon, Non, moi, on n'a pas tellement été faire des trucs d'actifs, quoi. C'est
les gens du village savaient que vous étiez là, quand même, que vous étiez des maquisards. Oh,
c'est le village, il y a deux fermes.
Donc, cette madame que j'aurais pu retourner essayer de la voir et tout, parce que son mari était un STO.
Et comment vous vous approvisionniez pour manger
ça, mon père fait réquisitionner des moutons.
C'est lui qui s'en va.
Toujours, il a fait donner des bons aux mairies. Un charcutier de Villefranche, il avait des moutons là-haut dans la montagne. Mmh. Il a fait réquisitionner deux moutons, des vaches, et réquisitionner du lait. C'était brouillon.
Et vous n'aviez pas de financement, personne ne vous donnait de l'argent.
Oui, c'est mon père qui avançait, puis... Mmh. Ouais, ben là non plus.
Pas trop comme ça marchait.
C'est bizarre, c'est pas s'occuper de ça quand on... C'est ça qui m'échappe.
Oui, c'est votre père qui s'occupait de tout ça.
Oui, il dirigeait tout ça, quoi. Après, une fois qu'il a pris le manche, là, on s'est plus bien occupé de tout ça. Mais il a dirigé, puisqu'après, c'est lui qui nous a laissé en échange. Enfin, bon... Voilà, c'est pas rien, hein. Et je voudrais bien de pouvoir se rappeler de tous ces détails, mais c'est difficile. C'est difficile.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été. Dans le petit matin frileux, mon vieux, y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. Mais quand on travaille au chemin de fer, on ne peut pas dire que c'est la misère. C'est pas non plus le paradis, pardi. Et quand je reste dans mon pieu, à bien sentir passer la vie, c'est bien souvent que je pense à lui. Son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. On voyait à son air défait que c'était le jour de la paix. On l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson. Tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Bon Dieu. J'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, comme si on était différents, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Il aurait peut-être été content, mon vieux. Mais quand on a juste 20 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Et moi, maintenant que j'ai un peu vieilli, en pensant à tout ça, je me dis qu'il était pas si mal que ça.
Et puis voilà, l'époque, le jour où je suis entré au maquis, justement, j'avais donc ce fusil que j'ai pris dans, roulé dans un sac, sur mon code de vélo, tout le long de la route de Vallée d'Azerc, où les Allemands passaient bien, justement. Me voilà parti jusqu'à Saint-Cyr-le-Château avec cet engin, que j'ai mis en état, parce que les hommes m'y connaissaient un petit peu, comme par mon père, enfin bon, ça m'avait intéressé passer un moment. Je l'ai tout bien armé, il a bien marché un peu par la suite, parce que...
Il a servi.
Bah, il a servi, oui, bah, comme ça, pour enfin, sur les Allemands, puisque on a eu un beau jour, on était vulnérables, quand j'y pense maintenant, putain, s'ils avaient voulu nous coincer à Saint-Cyr-le-Château, mais pff, ils nous prenaient comme un rat dans un piège. On était juste au près, à la cime de Saint-Cyr-le-Château, ça monte sa mine de Rigolet, là, on arrive en haut. Et il y avait donc une petite maison qui était libre, là, et c'est propre, hein, du perron aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est les tailles-là, moi, je voudrais bien pouvoir m'en rappeler. Et bien, il y en a un intermédiaire de cette maison. Puis mon père, c'est là qu'il est venu nous rejoindre. Un beau matin, un petit berger, un gosse de 7-8 ans, qui était là, il arrive en courant, tout essoufflé. On était en train de boire le café le matin, je ne sais pas ce qu'on faisait. Oui, c'était le matin. Les Allemands sont là, ils sont là. Qu'est-ce que tu dis? Les Allemands sont là. Tu fais me voir où c'est. Là-bas, ils sont en train de manger. Ils sont sur la rue. Oh là là, il y a une voiture, il y a une moto, une mitrailleuse aussi. Qu'est-ce que c'est? Bon, même il dit, bon, les jeunes, alors vous restez, ou qui vivent, je vais aller les compter. Et il a rampé, il y avait un gros rocher, et il cassait la croûte derrière, c'est un gros rocher. Il a rampé jusque là-bas, il en a compté à peu près une cinquantaine. Alors il a dit, il est revenu aussi pareil. Eh bien, il revient, et il dit, bon, c'est pas la peine d'aller en quitte les lieux, parce que si jamais il y a eu l'idée de revenir, là, mais ils étaient en débâcle. Alors, ils se tiraient, ils devaient choisir cette route pour éviter la route de la 6, parce que la 6, ça canardait, il y avait l'artillerie là qui leur tirait dessus. Alors, j'ai l'impression qu'ils avaient choisi cette route pour monter par le centre. Alors.
Ça n'intéressait pas à vous, quoi, ça.
Ben non.
Vous n'ayant pas identifié.
Ils ne venaient pas pour nous chasser, ils venaient pour se tirer. Donc il y avait une automitrailleuse, il y avait une voiture aussi, et une moto avec la mitrailleuse, avec les mitrailleurs dessus, quoi. Ainsi qu'un signe. Alors on gagne les craies, on gagne un craie, parce qu'on avait plusieurs craies, là. On gagne un craie, et mon père avec ses jumelles, les voilà qui, on les entend qui démarrent. Oh ben dis donc, on va savoir s'ils démarraient sur le bourg. Ah non, ils prennent la descente. Et la partie, c'est une route en lacet. Elle est tout en lacet. Premier lacet, j'ajuste mon Moser et tac, je tire dessus. Ah, c'était hélico. Toute la colonne s'est stoppée. Hein, et c'était assez loin quand même. Hein, mais un fusil de tir, ça porte loin. On a stoppé la colonne. Ils sont bien restés là un bon moment. Et puis alors, nous, allez hop, change de craie. Alors, on a été plus loin, et eux, on sont descendus plus loin. Alors, deuxième virage, le machin, sur l'antérieur, il faut dessus. Et on avait à toucher, toujours avant, deux fusils anglais, du Maquis et des Sten, et puis de trois grenades. C'est pas trop armé. Alors, voilà, alors, rebelote. Non, ben, c'est lui-même, pas des dents, je sais pas, mais enfin, attends. T'as dû toucher quelque chose, hein, parce que là, ils ont stoppé encore un moment, là, ils sont restés un bon moment. Hein. Et puis, ils sont repartis par la suite. Mais mon père, entre-temps, avait envoyé un petit jeune, une estafette pour aller avertir Alière, de Bourg à Alière. Alors, c'est là que je ne me rappelle pas, que j'ai eu tort de jamais lui demander. Je ne sais pas qui connaissait Alière, pour qu'elle allait porter une note. Un homme a dit, attention, mettez-vous en garde, ils arrivent, voilà, c'était comme ça. Le premier gun, moi j'avais transformé un vélo moteur, j'avais enlevé le moteur, j'avais mis un pédalier, parce qu'il y avait des gros pneus, puis il y avait une fourche élastique, un vélo moteur, c'est la marque de la moto. Ah bon.
Puis il y avait cette espèce de raccourci pour descendre à l'air comme ça. Et il s'est cassé la gueule, ça a tellement scouté qu'il dit, il revient, tu tombais tout le monde, mon père, dis, allez, toi alors, vas-y, allez. Il a pressé le billet à l'autre, il est descendu à pied. Alors il est arrivé à temps, tant qu'on les arrête, ça ne sert pas. Et paraît-il, alors ça, c'est tout ce que j'ai su, comme on dit, ils sont arrivés dans la Lière. Il y a un gars qui était averti, qui était tireur d'élite dans l'armée, quoi. Alors, est-ce qu'il a trouvé bon, lui, d'essayer d'arrêter l'automitrailleuse qui était en tête, évidemment. Et il a essayé de tirer, non, puis il a loupé la lucarne, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors donc, tirer en haut, tirer en bas, ils sont restés là un sacré moment, parce que alors nous, on avait changé encore troisième craie, on les a suivis, quoi. Alors, du coup, tout d'un coup, dit, bon Dieu, mais c'est qu'on n'avait pas bouffé non plus. Hein. À peu près, c'était 2h, 3h, peut-être 4h de l'après-midi, je ne sais pas à quelle heure ils sont remontés, mais c'était au mois d'août, ça. Hein. Alors, on les entend remonter. Alors là, restons bien où on est. Hein. Et ils sont propassés dans le village, ils ont tout, ils ont fait le tour, ils sont descendus comme ils étaient venus. Mais alors, mon père refait avertir les gars, ou c'est les gars d'Allières qui ont averti les maquis. Du coup, on arrivait, on attendait, bon, on fait les moteurs, ça arrivait de tous les côtés, on était pas là, peut-être à 150 maquis là. Il y en a pas un qui se rappelle de ça. Alors, ça me dépasse, je ne comprends pas. Et bien, il y a des chefs qui ont dit il faut aller là-haut, puisqu'ils avaient reçu des ordres. Pour les attendre encore, ils reviennent en force. Ils avaient repéré
c'est des choses. Et qui venaient d'où, ça, vous ne savez pas?
Ah ben, de nos maquis, parce qu'on en avait un marchand, enfin qui n'est pas le même PC, quoi. Mais enfin, nous, notre PC, c'était à Clavaison. Clavaison, je crois. Que j'ai jamais connu non plus, j'ai jamais eu à y faire. On était séparés, on était loin, là, on n'était pas.
Puis, vous aviez un peu des relations avec Chavanet et Chadbeck ou pas du tout?
Mais c'est mon père qui devait avoir ça.
C'est lui qui avait.
Non, moi je ne connaissais rien du tout dans tout ça. C'est difficile.
Vous étiez combien dans ce
moi, le petit groupe là-haut, oui. 8. J'étais 8 dans des jeunes qui étaient arrivés en dehors, dans des petits théâtraux. Alors, t'es vraiment des petits maquilleurs. Ouais. Quand mon père nous rejoint, ça faisait. Ben non, j'ai débuté avec l'Avrir. Ah, puis un gars du Nord, il parlait comme ça, le carton, on l'appelait. Une tas de carton, encore faire un carton. Il faisait là, comme les fichiers, les chimiques. C'était bien sympa. Alors, on était en trois, le quartier maître de la marine, qui était l'île de Ré, qui était venu se planquer là, hier. Comme ça, quoi. Il avait fait sauter son bateau à Toulon, dans la marine, et puis il était venu là, puis par la suite, après, il s'est marié avec la fille où j'étais, était réfugié. Enfin bon, on était là. Alors lui, comme il était gradé, moi j'étais pas gradé, chantier de jeunesse, ça n'a rien à voir avec l'armée, c'était. Alors moi, je vais connaissant dans les neufs, faire ramper les petits gones, les gones là, qui étaient venus. Alors il arrive deux, il était deux ou trois, je crois. Ou trois, paraît-il, de la Croix-Rousse. Lyon, on vient de la Croix-Rousse, doucement. Attention, il y en a eu dans le maquis qui se sont accostés comme ça. Alors, on les a bien torturés en question. Et puis on a vu que bon, ben, ça va, c'est que bruit, il y a 16 ans, 17 ans, il faut des gones, quoi, des jeunes. Quoi. Et nous voilà, donc, groupés, ben, 8, bon, c'est tout. C'est pas bon temps, c'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup de vagues.
C'est pour bien parler de lui. C'est votre père qui le dirigeait, ce petit.
Et voilà, avec un petit là, jusqu'à ce qu'on ait reçu l'ordre de descendre sur Lyon pour la libération. Le mois, le 28 à peu près, quand je me rappelle. Il me semble que c'était le 28 août. On a rejoint Lière et on est monté dans les camions gazogènes. On s'est attendu que le jour se lève à Polyonnais. On a couché sur les bancs en pierre, on attendait que le jour se lève pour descendre sur Lyon. Et c'est de là que c'était un vendredi, on a dans la nuit du vendredi au samedi, et le samedi on s'est mis en position tout de suite à Francheville, en dessous du séminaire, parce que les Allemands occupaient le séminaire de Francheville. Alors donc, il y en a Neige qui était là, il nous pose là, il appelle, il fait le regroupement, et allez, groupe Saint-Cyr, disons. Groupe Saint-Cyr, attaque du séminaire, allez voir ce qui se passe là-haut. Ouais. Ils m'ont perdu. Ah bon ? Alors, allons-y. Allez, hop. Une marche, hein. 2h30 de marche dans la broussaille. Non, nous n'avons pas vu arriver. Hein. Est arrivé au séminaire. Mais alors, c'était ça qui était tout. C'était dangereux, là, le maquis, parce qu'il n'y a pas de. On ne communiquait pas, quoi. Il n'y avait pas pour les portables. Hein. Mmh. Alors, c'était tout de bouche à oreille, quoi. Alors, donc, on était derrière la voie ferrée, là. On se planque derrière la voie ferrée de Francheville, en bas, face au séminaire. Et puis là, on part de là, justement, on part à la table du séminaire. Et puis on arrive là-haut, c'était bien une heure de l'après-midi, on n'avait pas mangé. Et on a, ça faisait une butte. On arrive en haut de la butte. Nous, on était tout seuls, là. On n'avait pas aperçu qu'il y en avait d'autres, qui étaient le fusil mitrailleur, qui était mis derrière nous. Enfin, à côté, on ne s'est pas vus ensemble. Parce que nous, on parlait de buisson en buisson, oui, on n'a pas fait de vague. Alors donc, il n'a pas vu arriver, à cette époque, que mon père, il sort du groupe, et on était dans un groupe comme ça, juste à quelques. Mais pas 100 mètres, même pas 100 mètres du fort, du séminaire. Alors, mon père prend sa stèle, la met en bandoulière, et voilà, il se met tout droit, et il longe le chemin. Puis je lui dis, qu'est-ce que tu fais? C'est le seul moyen de voir s'il y en a. S'il y en a, me tire dessus, alors on saura qu'il y en a. Et hop, voilà, parti, il y avait un groupe de personnes qui étaient au bout du chemin. Donc, il nous a dit qu'il y avait un curé, je ne sais pas pourquoi. Alors, il leur demande, il dit, ben, dites donc, qu'est-ce qui se passe là? Oh là, les gens disent, oh, maquis, mais, oh là 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 là, mais c'est le moment, ils sont en relève, il en reste peut-être un ou deux dedans. Pourquoi mon père revient vite et fait un mot, hop, pour donner un ordre au fusil mitrailleur de venir nous comporter, comment on appelle ça, enfin, nous épauler, quoi.
Appuyer.
Alors vite, il dit un mot, là, c'est ce copain Schmeil qui travaillait à TCL, enfin, il était réfugié de Paris, c'était un flic de Paris, qui était réfugié dans la région. J'avais fait embaucher dans le maquis. Alors donc, il donne l'ordre, il arrive en bas, l'ordre d'ordre poli, il se replie. Le capitaine qui menait ce groupe de. Pas à peine connu. Alors il avait son fils comme ça, comme mon père avait moi, avec lui. Quoi. Alors il voulait pas être là, mais sans se battre, sans rien faire. Ouais. Peut-être pas pour son fils, mais à ce moment-là, ça joue pas, c'est très clair. Mon père, il parlait pas si c'est très beau. Alors, en dehors, oui. Pas mon père, qui était redescendu dans le machin pour se mettre à l'abri, bien sûr. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce boulot de repli? Pas non, il je crois qu'il y avait un ou deux fusils mitrailleurs, il y avait de quoi faire. Hein. Putain, on aurait attendu le camion qui arrivait, là, on occupait le machin tout de suite. Et ben voilà, raté. Alors mon père a dit, oh là 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 là, si ça marche comme ça, là, moi je marche, attention, hein. Allez, allez, on se groupe et on redescend. Et ben nous aussi, on va se replier. Alors on a refait pareil. En descendant, on trouve des gars qui montaient comme ça, hop, ils montaient. C'était le maquis de marchand. On se connaissait pas, pour rien dire. Ils montaient, même sur un casque de la guerre de 39. Les gars, ils étaient là, puis tout d'un coup, prrr, ben oui, ils allaient carrément, du coup. Hein. Alors, ils se sont fait tirer, on est redescendu comme on était monté, personne ne nous a vu. Alors, on est parti. On a dit, allez, allez, on va aller manger. Puis on s'est replié carrément sur Brinda, je pense, c'est Brinda ou Chapoune. Enfin bon, à l'arrière des lignes. Là. Ce qu'on faisait d'ailleurs après tous les soirs. Et tous les matins, on venait à la ligne jusqu'au mardi. Au mardi, là, après il y a le dimanche, le samedi là. Ce dimanche-là, alors là, ils nous avaient repérés. Alors tout d'un coup, NS était avec les gars, il était avec des gars, ils étaient là, comme ça, ils attendaient son coup. Tout d'un coup, tic-pam, voilà, ils enlèvent, ils en. Il fait un coup de. Alors, du 90, c'est tout très chien, il y a un double. Alors, NS, qui était alsacien, gros, c'est un GMR, un Templar, quoi, qui est décédé aussi. Enfin bon, alors. Ça fait rire mon père, parce que mon père nous a rassemblés, allez, avec nous tranquilles. Hop, suivez-moi, c'est tout. Dans les chinanes. Ah, non, 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 Alors, ils sont rassemblés, ils sont petits réussis, ça va. Puis le lendemain matin, c'était dimanche où est arrivé ce truc-là. Puis le lundi, on a repris nos positions, puis on a repris comme ça jusqu'au mardi matin. Mardi matin, vers 10h du matin, voilà mon père qui voit ses jumelles, il voit des sœurs qui descendent dans les rangs de vignes en face. Voilà, et ça, mais anormal. On va voir un peu si c'est les sœurs. Parce que les sœurs, ils viennent voir ce qui se passe. Pas normal. Allez, hop, on joue. Bam, on tire dessus. Cavalé. Manque de peau. Voilà, les Allemands qui ouvrent le feu aussi. Un petit jeune qui était va passer les néos, qu'on a su le soir. Il est mort, pauvre petit. Un éclat d'obus qu'il va couper. Un gars qui lui a essayé de lui faire un garrot, paraît-il. Au lieu de lui faire en haut, il va faire en bas, je ne sais pas quoi. Enfin, il a perdu son sang, il a appelé sa mère. La cata, d'ailleurs. Il est arrivé au rassemblement là-haut, à Brunda, je crois, sur la place. Mon père avait reçu l'ordre de rejoindre Nénès à la mairie, urgent, rendez-vous urgent, parce qu'il a porté mon père responsable de ce machin-là. Mon père a dit, on fait ce qu'on peut en faire, puis c'est tout. Alors, ils se sont bien attrapés là-bas, et ce qui m'a fait le plus fort aussi, c'est que mon père, petit vide qu'on était, enfin, plus que 7 pieds de poids. Il dit, allez, groupe Saint-Cyr, derrière moi, en ligne. Hop, et on était là, moi je vais à la mairie. Et ils sont accordés là-bas. Alors en revenant, il dit, bon, le commandant est d'accord, d'ailleurs moi aussi, on est nommé groupe franc. L'un des soldats dit, est-ce que vous voulez vous battre au même cours franc? Et mon père dit, c'est tout ce qu'on demande. On a prêté à descendre tout de suite sur Lyon, nous. Hein. Et si on descend ce soir, j'ai d'arné qu'on risquerait bien d'éviter beaucoup de choses. Parce que ça presse en ce moment. On n'a pas voulu le faire. Alors c'est pour ça qu'il y a un tas de ponts qui ont sauté, qu'on aurait pu peut-être éviter. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Alors, mais voilà, groupe franc. Sectionnaire en deux. Mais là, j'avais plus de gars, il y a des gars qui ne m'avaient rejoint là. Mmh. Alors donc, mobilisation de deux voitures, mon père a réquisitionné une Opel d'un docteur de Brunda ou Jobono, je ne sais pas, il faut une Opel, moi pas une Opel, 14 chevaux. Et puis moi, il m'amène une petite Renault, une queue de pie là. Alors moi, j'avais 5 gars avec moi, 4 ou 5, et puis lui, il avait autant. Et lui, il avait fusil mitrailleur, c'est un gros, je me rappelle. Alors, on arrive jusque sur la demi-lune, là, arrivé à l'horloge, mon père s'arrête. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? On va faire de chaque côté. Il me dit, moi je descends sur Vaise. Moi je descends sur Choulan. Moi je suis parti sur Choulan, lui Vaise. Et puis, t'es arrivé là-bas, Choulan, le pont du Change, sauté. Juste à la place de la voiture. Les pavés tout dégradé. Je passe le pont du Champ, on arrive au pont de Dagui, pareil, c'était tout sauté.
Il n'y avait plus d'Allemands dans la ville.
Si. Il y avait les miliciens, c'était saloperie là. Alors là, c'était pire que les Allemands. Déjà, mon père en a fait descendre 3 vaisses, puis c'était vite fait. Ils étaient pris, une balle dans la tête et à la Saône. Le jugement était tout de suite. Et nous, moi je m'en fais toujours, j'étais avec ma voiture, mais mon gars était parti à Perpignan, il était place Bellecour devant le syndicat d'initiative. Alors j'y repasse, j'étais là avec ma voiture, au milieu de la place. Là, il y avait la DFL qui venait d'arriver, la division française libre, qui était arrivée avec les chars. Ils étaient collés là, face à Flammarion, comme ça, dans Louis XIV, quoi, le machin. Ils étaient en train de se ranger. Et là, plus loin, il y avait une colonne, une section qui s'apprêtait à défiler pour aller jusqu'à la mairie centrale. Et puis ces putains de miliciens, ils étaient cachés derrière la place Bellecour, ça fait des crochets comme des plots. Ils étaient tâtés, ils étaient tirés dessus. Alors, ils ont blessé un petit gars là, dans la section qui s'apprêtait à partir. Ça les a mis en boule, ils ont été avertir les gardes des chars. Les chars, ils ont déployé la 12-7 et brrr, on a arrosé de la place belle pour ça. Pas fait toujours. Un petit curé, il était grand comme ça. Il arrive vers moi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? On est content, on est content. Mais c'est affreux. Mais allez, qu'est-ce que tu veux? Fous-toi sous la voiture comme ça, tu craindras. Il se casse la vente. Alors voilà, j'ai des trucs comme ça, je me rappelle. Et puis bon, ben voilà, après j'ai pris mes gars. Il est arrivé un gars, je le vois arriver, ils l'ont amené au camion. Le camion était là, il amène ce camion, il se regarde le tenir, il avait une chemise bleue, je me rappelle, pleine de sang. C'était, paraît-il, des femmes qui lui avaient griffé la figure. Un milicien qui a été pris avec l'arme à la main, quoi et tout. Et ben, je l'ai vu embarquer dans le camion, hop, ils l'ont balancé dans le camion, et le camion est parti, ils ont dû le foutre dans la Saône, pareil, voilà, il a été liquidé. Voilà ce que j'ai vu ici. Et puis après, moi, ben, même si on avait vu en octobre 44, que c'est marqué, là, je sais pas, c'est de là que j'ai signé, mais il y a beaucoup de gars qui sont rentrés chez eux. Mm. On dit, moi, on a assez fait, hop, je rentre, puis ça y est. Il y en a qui n'ont rien fait du tout, là, de la 44, 43, 44, même des débuts 45, et ils n'ont rien fait. Ils ont passé à travers.
Vous avez été jusqu'où en suivant?
Ah ben là, j'ai donc continué.
Vous êtes passé en Allemagne après?
Oui, on était, notre siège était à Baden-Baden.
Qu'elle chanterait cette corde que fait chanter Vivaldi au printemps, couleur de tourterelle. J'aurais simplement voulu être heureux, j'aurais simplement voulu la 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 la. J'aurais simplement voulu. Qu'aurais-je été s'il ne montait ce chant au travers de ma gorge? Témoin de la réalité du monde de malheur que les hommes se forgent. J'aurais simplement voulu être heureux. J'aurais simplement voulu la 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 la. J'aurais simplement voulu. Qu'aurais-je été sinon cet inconnu qui croit qu'on lui pardonne pour son accent de vérité de ravir aux passants la chanson qu'il fredonne. J'aurais simplement voulu être heureux. J'aurais simplement voulu la 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 la. J'aurais simplement voulu. Qu'aurais-je été sinon cette vallée que tous les vents traversent. Mes certitudes ballottées, ces mots à peine éclos à mes lèvres qui gercent. J'aurais tant voulu vivre un monde heureux. J'aurais tellement voulu la 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 la. J'aurais seulement voulu.
Ainsi se termine notre émission de ce jour consacrée au maquisard lyonnais Paul Debat. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre successivement les chansons suivantes. Les Tractions avant de Risset Barillet pour les paroles, Bernard Leloup pour la musique, interprétée par Risset Barillet. Puis c'est Alain Hivert qui chantait Jean Ferrat, mon vieux, sur des paroles de
Claude Senlis. Et ensuite, Alain Hivert encore, qui interprétait sur des paroles et musiques de Jean Ferrat la chanson « Qu'aurais-je été ?». Nous remercions Paul Debat d'avoir bien voulu accorder cet entretien en exclusivité à Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci à l'émission Bistantlac. Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance, en 20 mètres de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque. Applaudissent, que s'arrête le temps, on s'en va, on se bise, on se... son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Biston Clac. C'est pas de la rengaine à gavelise, passant pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Biston Clac. Le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être dedans, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redissent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais on les claque. On s'embrasse, on se bise.